France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Elle est la nouvelle patronne de la Villette et elle livre un spectacle en réalité augmentée en ce moment à l'IRCAM à Paris. De bonnes raisons de l'inviter, la chorégraphe Blanca Lee sera avec nous à partir de 13h. Mais on commence tout de suite avec notre plateau critique. Au menu aujourd'hui, deux séries, The Agency, l'adaptation américaine du Bureau des Légendes, à voir en ce moment sur Canal+, et Malditos, un polar matiné de western dans la communauté gitane de Camargue, imaginé par le documentariste Jean-Charles Hu. Vous écoutez les Midis de Culture et nous vous en savons gré. Et pour débattre autour de la table aujourd'hui, Olivier Joyard, critique et réalisateur.
Bonjour Marie.
Bonjour. Et Charles Bosson, un nouveau venu, critique, essayiste et documentariste.
Bonjour Marie, ravi d'être là.
Et bienvenue à vous. Un espion sous couverture rentre au bercail après 6 ans sur le terrain. Il laisse derrière lui une femme aimée et doit former un nouvel agent pour une mission en Iran. Vous aurez peut-être reconnu le point de départ du Bureau des Légendes et c'est aussi le pitch de The Agency qui est donc l'adaptation américaine de la série culte imaginée par Éric Rochant et diffusée en son temps sur Canal+. Si comme à moi, Malotru, le héros brisé et amoureux vous manque, il est possible de se rabattre sur Michael Fassbender qui prête ses traits à l'espion version US. Dans ce remake, son pseudo c'est Martian, le Martien donc. Je dis version US, mais les showrunners sont les frères britanniques Jez et John Henry Butterworth et l'action se situe essentiellement à Londres, au milieu des froides tours de la City. On commence avec un avis rapide, Olivier Joyard.
Il y a plusieurs façons de voir la série, enfin au moins deux. D'abord comme une copie, vraiment un travail de copiste, comme on disait au Moyen-Âge, quoi. Donc un remake, comme on dit aujourd'hui, ou peut-être un palinceste, comme on dit aussi en poésie. Et puis, c'est-à-dire le remake du Bureau des Légendes, qui est peut-être la plus grande série française, ou en tous les cas, pas loin de ça. Et puis sinon, on peut oublier tout ça, on peut ne pas avoir vu le Bureau des Légendes et la regarder comme une nouvelle série d'espionnage. Peut-être un retour, un esprit de John le Carré dans notre monde. Moi, j'ai oscillé un peu entre les deux. C'était pas toujours très confortable. Ce que je sais, en tout cas, c'est que le Bureau des Légendes était à un moment légendaire des séries. Et là, je crois que c'est pas le cas.
Charles Bosson.
Alors moi, je me suis un peu poliment ennuyé. J'ai beaucoup aimé les deux premiers épisodes signés Joe Wright, qui est un immense styliste et cinéaste, qui donne une espèce de pêche d'énergie, qui ramène un peu l'univers d'Alan J. Pakula. Vous voyez les films de complot, les films paranoïaques, vraiment dans l'univers. Il vient prendre le Bureau des Légendes et il l'amène là-dedans. Et puis ensuite, malheureusement, ce qu'il laisse, ce sont des versions un peu affadies des personnages créés par Éric Rochant. Des bleus-gris, des présences erratiques, une gravitas un peu superficielle. Et je crois que les créateurs ont oublié quelque chose d'essentiel dans le Bureau des Légendes, c'est le bureau.
Ah, pas mal. On écoute la bande-annonce de The Agency.
Nation needs protecting. It builds an organization, the CIA, this department. Go and pretend to be someone you're not. Lie to everyone. Risk your life on a daily basis. Then come home, just fucking deal.
Est-ce que t'as tué des gens? T'as déjà fait genre un échange d'otages? T'as trouvé des armes nucléaires?
Il n'y a aucun danger pour la sécurité nationale, c'est personnel.
On est dans le renseignement.
Il n'y a rien de personnel!
Well, I can assure you, the person sitting in front of you is 100% nuts.
Voilà, la bande-annonce de The Agency en ce moment sur Canal+. Olivier Joyard, vous avez été finalement pollué par ce que vous aviez aimé dans le Bureau des Légendes?
J'ai essayé de me dépolluer, ouais. Mais c'est pas évident en fait quand on a en tête la référence d'une série qui a en plus qui est terminée, qui a eu une ampleur un peu exceptionnelle, en tout cas au niveau français, quoi. Hein. C'est vraiment ça qui était et puis qui était filmé, je dirais, qui était issu d'une une blessure personnelle très profonde, je pense, chez le créateur Éric Rochant. Et là, c'est bien bien différent pour les showrunners de la série qui font un travail, je dirais, donc de copiste et peut-être d'artisan extrêmement doué. Moi, je les trouve pas. C'est pas du tout une mauvaise série. En fait, c'est ça le problème. C'est ça qui rend peut-être un petit peu complexe le fait d'en parler comme ça et de donner un avis extrêmement tranché. Parce que moi, en fait, ce que je me demande, c'est au-delà de la question de l'adaptation, c'est la question de l'adaptation par rapport à une forme qui est déjà existante, c'est l'adaptation au monde contemporain, parce qu'en 10 ans, finalement, le monde a beaucoup changé, même si on est en... Là, il déplace l'intrigue autour de l'Ukraine, la Russie notamment, ça se passe à Londres, effectivement. Avant, c'était plutôt le Moyen-Orient au début, ça a pu être la Chine, il y a eu plein de... La géopolitique, en fait, était relativement différente, mais je dirais que dans un monde post-vérité, est-ce que les espions sont vraiment des personnages exceptionnels, c'est-à-dire des gens qui sont dans la la dissimulation permanente, et c'est vraiment le sujet de la série, le sujet du Bureau des légendes et le sujet de The Agency, avec à chaque fois cette idée de d'un homme, d'une femme, de personnages qui sont presque en dehors d'eux-mêmes, qui ne disent jamais la vérité, enfin toutes ces choses-là qu'on a vues et revues en fait, hein, qui me semblent un tout petit peu compassées maintenant. Et là, contrairement à Charles, je suis pas du tout fan de Joe Wright. Je trouvais un très très mauvais réalisateur que je conçois vraiment comme un faiseur au sens le moins noble du terme, je dirais, c'est-à-dire qu'il est il y a un motif qui traverse toute la série, c'est les transparences, les vitres, ouais. Enfin, c'est-à-dire que une fois, deux fois, et je pense que c'est plusieurs centaines de fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une amorce qui ne soit pas un peu floue avec cette idée. Moi, j'ai eu l'impression parfois d'être dans ces séries policières, les personnages qui sont derrière la vie de Santin et qui voient les autres s'ébattre comme ça et essayer de jouer leur vie et qui se disent « bon, je suis quand même à moitié concerné par ce qui se passe ». C'est un peu la sensation que ça m'a donnée.
Mais c'est aussi un problème, c'est qu'on essaye de prendre une sorte de distance un peu brechtienne. Alors Joe Wright, moi, que j'adore, est quelqu'un dont les parents étaient marionnettistes. Et c'est bête, mais ça explique beaucoup de choses de son cinéma. Il a fait une version d'Anna Karenine extrêmement théâtrale, et c'est quelqu'un qui doit forcément penser tout ce qu'il filme comme une scène de théâtre. Donc il faut prendre de la distance, il faut filmer à travers les vitres, il faut filmer des surcadrages, et tout doit être une sorte d'événement optique, de happening visuel. Donc ce bureau de la CIA à Londres va être vraiment filmé, chaque traversée va être filmée comme ça, comme une espèce d'événement optique absolument extraordinaire. Donc on est happé, et pour moi la forme c'est du fond, c'est-à-dire que tout à coup on me raconte quelque chose sur le monde moderne, on me raconte quelque chose sur le quotidien de ces espions, et puis on a ce drapeau américain sur un écran LCD qui ferait presque penser à un tableau de Jasper Johns, un petit peu usé comme ça, un petit peu déteint, et qui vient parasiter comme ça. On a l'impression que l'Amérique est en... Voilà, ce drapeau est en berne, l'Amérique est en deuil, rien ne va plus, et cette grande mélancolie qui dure à peu près 2 épisodes finit par s'épuiser, et quand il passe la main au créateur, au cinéaste suivant, il n'y a plus grand-chose à filmer, car malheureusement, les personnages sont tous trop lisses, tous trop fades, par rapport à ces personnages très rugueux, très physiques, très drôles parfois, créés par Éric Rochant.
Mais c'est vrai que vous parliez de Charles Bosson, vous parliez du quotidien, c'est ce qui frappait dans le Bureau des légendes, on ne peut pas s'empêcher de comparer, hein, de toute façon, mais c'est ce qui frappait, cette espèce de quotidien d'une banalité terrible au milieu d'un truc complètement extraordinaire.
Et drôle.
Et drôle, effectivement, on retrouve ça dans The Agency.
Il y avait une forme de théâtre de l'absurde, disons. Et là, c'est... absolument gommé par un esprit de sérieux, en fait, je trouve. C'est marrant parce que je suis en train de dire plus de mal de la série que je ne pensais à en dire. Parce que c'est très étrange quand on commence à réfléchir et à se plonger dans les objets comme ça. On se retrouve peut-être parfois et surtout dans une série qui est a priori quelque chose de très évolutif. Et là, moi, je sens pas du tout la césure dont parle Charles après les 2 premiers épisodes. C'est-à-dire que j'ai plutôt le sentiment que la série s'épanouit dans sa contemplation d'un chaos comme ça. Et elle saute, comment dire? Elle travaille presque son obsolescence, parce que là, on parle du drapeau américain, Jasper Johns, bon, c'est quand même, ça fait quelques décennies que ça a été fait, en réalité. Et moi, je me demande où est la géopolitique actuelle, enfin, même la politique américaine, la folie américaine actuelle. Mmh. C'est quelque chose que je vois pas beaucoup dans les séries en général. Moi, je trouve que cette année, c'est pas un peu le manque. Normalement, la série est un art extrêmement réactif à l'actualité. Ça a beaucoup changé parce que avant, elles étaient produites quasiment en direct. Ils avaient 3-4 épisodes d'avance sur la diffusion. Maintenant, c'est plus trop le cas. Là, c'est un bloc qui a été fait en une seule fois par des gens très, très sérieux et très intelligents. Mais ça me, il y a beaucoup d'effets de tautologie, quoi. On nous répète sans cesse, éviter tout engagement affectif. C'est un travail de solitude. Et il y a un moment que j'aime beaucoup, par contre, c'est dans la, je crois que c'est dans l'épisode 3 où le personnage de Michael Fassbender, donc Martien, explique qu'il est fou, en fait, et qu'il le sera toujours. Et ça devient un père quasiment violent avec sa fille. Enfin, c'est quelqu'un qui devient un peu effrayant, qui me donne envie de le regarder plus longtemps.
Charles Bosson.
Mais c'est une série, je crois, qui manque, en fait, d'auteur, tout simplement. C'est une série Paramount, c'est une série Showtime, c'est une série de commandes. Et pour moi, ce qui lui manque, c'est ça. Et quand on parlait du côté quotidien du Bureau des légendes, bon, moi, j'ai jeté un œil aux premiers épisodes. On est happé immédiatement. Ouais. C'est-à-dire que Léa Drucker, qui joue la psy, rentre, on lui présente la choucrouteuse, qui est l'endroit où on jette ses documents à la fin de la journée. Le bureau, effectivement, est assez vilain. Il y a des armoires. Tous les gens qui travaillent dans les bureaux connaissent un petit peu ces environnements-là. Et puis, détail qui tue, on lui dit les agents de nettoyage ne peuvent pas entrer dans le bureau des espions. Donc, c'est à vous de faire un petit coup de ménage à la fin de la journée. Donc, on était très loin de Mission Impossible. On était très loin des grands films et des grandes sagas d'espionnage. Et par exemple, si on compare, puisque sur la même plateforme, on peut regarder les deux séries, dans l'épisode 2, on a cette scène où Daroussin se fait remonter les oreilles par son supérieur Gilles Cohen, parce qu'il a trahi un petit secret auprès de sa femme et de son beau-frère. Et ça se passe à la cafette. Alors, on a les plateaux repas,
on a
le flambi, l'un a pris le poisson et l'autre la viande, et les deux personnages s'engueulent, c'est filmé assez serré, la lumière est assez crue, et quand Gilles Cohen s'en va furieux, il reprend son petit plateau. La même scène en Amérique, ça n'a plus rien à voir, c'est dans un espèce de clair-obscur extrêmement élégant, il n'y a plus aucun détail réaliste, et les personnages de Jeffrey Wright et de Richard Gere sont comme deux chats qui glissent l'un devant l'autre. Mais rien ne se joue. C'est-à-dire que toutes les aspérités et le personnage de Daroussin, qui était quand même extrêmement drôle, c'est son côté Tintin, hein, qui était vraiment, il avait les surnoms d'ailleurs, les jurons du capitaine Haddock. Dans la version américaine, on a pris des noms de personnages des Looney Tunes. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça amène dans la série ? Marvin le Martien, Ville Coyote, Bosco, hein, Richard Gere, qui est un des premiers personnages des Looney Tunes. À quoi est-ce que tout cela sert ? C'est un beau travail de copiste, comme disait Olivier, mais en fait, de ce palimpseste, pas grand-chose ne ressort. Donc, où est l'auteur ? Quand Cocteau disait à Radiguet, copiez une toile de maître, tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui n'est pas la toile, c'est vous. Eh bien là, je trouve qu'il n'y a pas grand... Il n'y a personne.
Voilà, il n'y a personne. Olivier Joyard.
Je trouve qu'on est effectivement parfois à la limite de la pub pour un parfum, quoi. Il y a quelque chose
vraiment,
de très
beaucoup de mal en fait finalement.
Mais c'est pas si mauvais en réalité. On peut avoir envie de regarder une pub pour un parfum. Est-ce qu'on a envie de la regarder 8 heures à la suite? Ça c'est pas évident. Un parfum masculin, bien musqué, quoi. Mm-hmm. Ça rejoint d'ailleurs un thème. Là pour le coup, on peut voir aussi la série comme un Michael Fassbender movie Michael Fassbender série. Il vient de faire The Insider avec Soderbergh. Il a fait évidemment Shame et The Killer, le film de Fincher, où il avait ce côté extrêmement, comme on dit, minéral, c'est-à-dire qui ne bouge pas beaucoup et qui est. Et donc, voilà, cette sorte de déconstruction du froid, du mal dominant qu'il a travaillé dans toute sa carrière, bon, voilà, elle arrive à son terme à presque un aspect squelettique, quoi.
Et est-ce que ça apporte quelque chose finalement? Parce que là, on fait la comparaison, et est-ce qu'il y a un truc en plus?
Non, il y a plutôt des trucs en moins. Ouais. Hein, c'est-à-dire que j'ai aussi revu un tout petit peu du Bureau des légendes original. Il y a deux choses. Déjà, c'était filmé de façon beaucoup plus intime. Il y avait un peu de caméra portée, presque tremblante. J'étais assez étonné. Je me souvenais pas du tout de ça. Et puis, Éric Rochon avait eu l'intelligence de faire appel à de jeunes cinéastes, notamment Elie Cisterne et Laila Marakchi pour la première saison.
Et jeunes acteurs aussi, actrices.
Il y avait quelque chose de l'ordre d'un travail où ensemble, on essayait de construire un monde qui nous échapper un peu. Et là, ici, moi, ce que je vois, c'est une forme d'efficacité américaine qui est extrêmement respectable. Hein. Moi, j'ai pas... Mais c'était une série d'il y a 10 ans comme ça, elle n'aurait pas été noyée dans la masse comme elle l'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment de voir une série américaine de plus, même si elle se passe à Londres et elle est écrite par des Anglais.
Et peut-être une mauvaise compréhension du personnage, parce que le personnage de Malotru n'était pas un personnage tellement paranoïaque, ce qui est vraiment l'axe de la série et du personnage de Fassbender. Donc, tout le langage pas Pakula, Clute, les hommes du président qui est convoqué, qui est vraiment là pour décrire ce qui se passe dans la tête du parano. Dans le bureau des légendes, c'est un personnage qui, au contraire, rend tout le monde paranoïaque. C'est ça qui est fascinant avec ce personnage.
Oui.
C'est un personnage qui trahit ses idéaux, qui trahit ses secrets.
Mais
c'est un personnage
qui
crispe tout le monde, comme l'était un peu Mathieu Kassovitz à l'époque, en 2016. Et ça, c'était assez passionnant. Le personnage de Fassbinder, comme dit Olivier, il a une fiction qui lui colle à la peau, qu'on connaît avant d'avoir regardé la série et qui se duplique de film en série depuis Shame, depuis Prometheus. Est-ce qu'il y a une âme derrière Michael Fassbender? Cet homme parfait, extrêmement sexy, élégant, etc., musqué, comme tu le dis. Voilà. Est-ce qu'il y a une âme derrière cet homme? Bon, bah, ça va, on a compris. Peut-être pas le temps de passer à autre chose.
Un dernier mot?
Non, bah,
on a fini.
Franchement, je pense que. Disons que le temps passé à regarder une série peut être consacré au fait de revoir ou de voir pour la première fois le Bureau des légendes plutôt que de se plonger là-dedans.
Et le Bureau des légendes qui est également sur Canal+, c'était The Agency de Jess Butterworth et John Henry Butterworth.